BFM Business, midi, l'heure H. L'invité avec Edwige Chevrillon.
Cyril Chabanier, merci d'être avec nous, président donc de la CFTC. Vous venez de prendre votre poste, la direction du syndicat chrétien. En même temps, Cyril Chabanier, on vous arrive dans un contexte très particulier avec cette réforme des retraites, qui est quand même très très difficile à comprendre. Vous sortez de cette réunion multilatérale qui avait lieu à Matignon, un peu sur les points de blocage, sur les avancées possibles. Vous me direz s'il y a eu des avancées. Laurent Berger, le leader de la CFDT que je recevais en début de semaine, me disait qu'il était un peu circonspect, notamment sur la question de la pénibilité. Mais d'abord, un commentaire sur ces bons chiffres du chômage, avec Muriel Pénicaud qui est venue ici en direct les commenter sur BFM Business. Ça veut dire que les réformes, ça porte ses fruits quand on y arrive, ça marche.
Alors d'abord, on ne peut que se réjouir des bons chiffres du chômage, bien évidemment. Même si je reste toujours un peu circonspect, parce que on a quand même, dans la dernière réforme de l'assurance chômage, sorti certaines catégories de personnes qui étaient au chômage hier et qui ne le sont plus aujourd'hui, qui participent aussi un petit peu à l'amélioration des chiffres. Et c'est toujours très compliqué de savoir ce qui relève de la politique nationale et de l'économie internationale. Mais en tout cas, certaines mesures, forcément, ont eu un impact positif. Et donc, on accueille ces chiffres, bien évidemment, avec un grand sourire. On est toujours heureux, nous les syndicats, quand le chômage baisse.
Cyril Chabanier, lorsque vous voyez que, donc, alors c'est 8,1% sur l'ensemble de la France, oui, et 7,9%, donc sous les 8% lorsqu'on prend que la France métropolitaine, et puis lorsqu'on prend 24 départements, c'était l'annonce de Muriel Pénicaud, il y a 24 départements qui sont sous les 7%. Il y a une chance que le président Macron remporte remplisse sa promesse d'un chômage en dessous de 7% à la fin de son quinquennat.
Je l'espère, en tout cas, on peut que espérer que le chômage baisse et qu'il soit en dessous des 7%. On voit qu'il y a une certaine dynamique aujourd'hui dans notre pays, une dynamique aussi internationale. Il faut en profiter, il faut continuer à accentuer les différentes mesures. On est sur la bonne voie et j'espère vraiment que ça va continuer. On voit aussi que parfois des actions locales et des expérimentations locales portent aussi leurs fruits dans certains départements. On a pu en faire, nous, quelques-unes aussi dans le cadre du pacte de pouvoir de vivre, par exemple, où les syndicats ont participé à des expérimentations territoire zéro chômeur. On voit aussi que ça commence à porter ses fruits. Donc on espère que tous ensemble on arrivera à faire baisser le chômage, et en tout cas la CFTC essaiera de continuer à contribuer à cela aussi.
Est-ce que ça va créer des tensions sur les salaires ou au contraire plutôt des augmentations de salaires?
Il n'y a pas toujours de lien direct entre
non, mais vous,
entre
la CFTC,
qui avait chômage. Mais nous, évidemment, si les résultats s'améliorent, et on voit qu'il n'y a pas que le chômage, il y a aussi certains indicateurs économiques qui s'améliorent. Mmh. Et donc, évidemment, l'une des choses qu'on demandera très rapidement, c'est que les bénéfices de ces améliorations des indicateurs économiques profitent aux salariés par des augmentations de salaire.
Alors, que s'est-il dit à cette fameuse réunion où, depuis quelque temps, vous êtes tous retrouvés autour de la table? D'abord, est-ce qu'il y avait tout le monde? Il y avait Philippe Martinez de la CGT?
Alors, il y avait toutes les organisations syndicales, mais il n'y avait pas Philippe Martinez en tant que leader. C'était le seul leader qui n'était pas présent autour de la table. Mais il avait annoncé déjà depuis un certain temps que la CGT serait représentée, mais pas par son leader.
D'accord. Et donc, l'ambiance, comment racontez-nous un peu les coulisses avant qu'on rentre dans le dur du sujet?
Donc, c'était une rencontre importante puisque ça devait être le retour d'un mois de travail, en fait, puisque nous avons fait des concertations avec différents ministères, que ce soit le travail sur la pénibilité ou d'autres ministères. Donc aujourd'hui, on devait avoir un peu le compte-rendu de ces...
Avancées, s'il y en a eu.
Alors, des avancées, s'il y en a eu, les comptes-rendus, et puis de voir ce à quoi on pouvait arriver à un certain consensus et dans lequel le gouvernement pouvait se permettre de faire des annonces, et d'autres sujets sur lesquels il faudra encore un peu y travailler.
Alors, justement, est-ce qu'il y a eu des avancées? Est-ce qu'il y a eu des accords, en tous les cas, sur certains points? On va garder la pénibilité pour peut-être ensuite, Cyril Chabanier, parce qu'on sait que
c'est le plus compliqué.
C'est le plus compliqué. Mais donc, sur les transitions entre le régime existant et cette future réforme d'un régime universel, est-ce que là, vous avez trouvé un accord?
Oui, je pense que sur les transitions, c'est peut-être le sujet sur lequel on a eu un plus grand consensus, en particulier sur le fait de préserver les droits acquis et donc d'avoir une transition qu'on appelle cette fameuse, alors c'est un peu barbare, mais la transition à l'italienne, qui permet de conserver l'intégralité de ces droits acquis et également de pouvoir en fait avoir une partie de sa retraite qui sera liquidée, alors jusqu'en 2025, qui sera liquidée en fait sous l'ancien régime et sous l'ancien système, en préservant les 25 meilleures années, les 6 derniers mois pour la fonction publique, et qui sera d'ailleurs calculée à la fin de la carrière, donc ça sera réévalué par rapport à tous les indices et à tous les coûts qui seront au moment de la prise de la retraite. Et puis évidemment la deuxième partie de carrière qui elle sera intégralement calculée selon le nouveau régime. Mais ça permet vraiment d'avoir la garantie que 100% des droits qu'on a acquis avant 2025 soient conservés et dans les mêmes proportions, dans les mêmes valeurs. Un peu mieux d'ailleurs avec la réévaluation qui se fera en fin de carrière.
Ouais. Est-ce que vous avez lu cette enquête de l'INSEE qui montre que justement pour les 10% les plus pauvres, le fait d'arriver à la retraite, c'était quand même un petit plus parce que les rémunérations étaient supérieures, mais qu'en revanche, on voit bien que les 2 années, voire 4 années, voire 5 années de la dernière carrière, dernières années de vie professionnelle étaient dans des conditions extrêmement difficiles.
Oui, alors c'est d'ailleurs pour ça qu'on a été la seule organisation syndicale au début de cette réforme à parler et à s'intéresser, je l'avais fait d'ailleurs sur votre plateau, à toutes ces personnes qui aujourd'hui partent à 67 ans, qui sont souvent d'ailleurs les personnes les plus précaires, donc qui travaillent longtemps jusqu'à 67 ans.
Non, moi c'était plus ceux qui sont au chômage à 50 ans et qui finalement touchent leur retraite qu'à 62 ans.
Oui,
et
d'accord.
Que là, à la limite, oui, c'est l'inverse. Et que là, à la limite, ils touchent plus d'argent avec leur retraite qu'ils n'en touchaient au chômage ou même sans rien.
Oui, ça c'est une avancée qui était importante parce qu'ils retrouvent, ça permet d'avoir des revenus un petit peu plus importants. Après, il faut travailler sur cette fin de carrière justement, ouais. On en a parlé aujourd'hui, parce que ce sont souvent des métiers d'ailleurs qui sont pénibles et il faut vraiment améliorer leurs conditions de travail parce que le simple fait de gagner un peu plus n'est pas la seule solution non plus.
Sur les seniors, est-ce que vous avez acté quelque chose ? Justement, est-ce que le patronat a fait des propositions ?
Alors, sur les seniors, oui, un petit peu. Alors, en particulier sur tout ce qui est retraite progressive,
ouais.
Puisque l'une des annonces et l'une des avancées importantes de ce matin, c'est que la retraite progressive qui devait, dans le nouveau système, démarrer à 62 ans, le gouvernement a annoncé ce matin qu'il revenait aux 60 ans, et donc au système actuel. Donc on a récupéré les 2 ans qu'on demandait, nous, à la CFTC depuis un certain temps. Donc ça a été une avancée importante. Alors on a aussi toute la difficulté autour. Alors quand on parle de retraite progressive, il y a aussi des avancées qui sont faites sur le compte épargne-temps que lequel il va être déplafonné. Alors non pas pour partir vraiment plus tôt à la retraite, mm-hmm. mais l'idée étant que ce compte épargne-temps, on puisse prendre une à deux journées par semaine pour pouvoir en fait faire un peu un travail à temps partiel et d'avoir un départ à la retraite qui se fasse de manière plus progressive. On passe pas d'un temps complet à directement le lendemain à la retraite. On pourra, en prenant une journée ou deux par semaine, et avec ce compte épargne qui est déplafonné, on pourra travailler quasiment à temps partiel tout en étant payé à temps plein.
D'accord,
sur les dernières années.
Alors la pénibilité, est-ce que vous êtes, qu'est-ce qu'il y avait sur la table ?
Alors sur la table ce matin, il y avait des avancées notables sur 2 des 3 grands sujets de la pénibilité.
Ouais.
Ce que j'appelle les 3 grands sujets, c'est une partie prévention, une partie reconversion et une partie réparation. Vous vous doutez bien, rien qu'à mon sourire, que les avancées ont été les plus importantes sur le côté prévention et reconversion. Côté prévention, le gouvernement nous a annoncé qu'il prenait 100 millions d'euros de la TMP pour améliorer les conditions de travail et pour d'ailleurs forcer toute une série de mesures dans les entreprises pour améliorer les conditions de travail. Donc 100 millions d'euros.
TMP, c'est quoi, pardon ?
C'est la sécurité sociale côté accident de travail.
Pardon.
Et donc du coup 100 millions d'euros qui sont débloqués pour l'amélioration des conditions de travail, ce n'est pas négligeable.
Ouais.
Il y a aussi de la concertation et des négociations qui vont se faire, y compris au niveau des branches. Donc ça va être lancé avec un objectif d'avoir des métiers qui seront reconnus pénibles au niveau des branches, et ce on aura 6 mois pour déterminer ces différents métiers. La petite problématique quand même qu'on a, c'est qu'on a demandé au gouvernement, en tout cas la CFTC a demandé au gouvernement d'inciter fortement les branches, parce qu'on sait aujourd'hui qu'il y a des branches qui jouent le jeu et des branches qui jouent pas le jeu. La reconversion, 6 mois de formation complète, avec un étant payé à temps plein, qui permet d'avoir une vraie formation avec une augmentation des compétences.
Qu'est-ce qu'a proposé le SAL? Qu'est-ce qu'a proposé le patronat? Parce qu'on sait que notamment la CFDT demandait la réintégration des fameux 4 critères de pénibilité que le patronat n'en veut pas. Accord au niveau des branches.
Alors les 4
critères.
Et vous,
qu'est-ce que vous demandez du reste?
Alors, on demandait aussi la réintégration des différents critères. On sait qu'aujourd'hui, ils ne sont pas pris en compte et que le patronat reste complètement fermé sur ça, même s'ils sont prêts au niveau de la branche. Alors, non pas d'aller au niveau individuel de chaque personne, ce qui est bien dommage, mais de faire quelques efforts au niveau du métier, non pas au niveau de la personne. Donc ça, c'est aussi une petite avancée. Mais la véritable problématique, c'est aussi pour... On comprend la difficulté de réintégrer ces différents critères parce qu'il y a une difficulté aussi de le mesurer. Même sur le côté technique, on peut toujours faire mieux. La véritable difficulté aussi, c'est qu'on a des personnes, quand on avait ce fameux C3P avec l'ensemble des critères, qui pendant des années pensaient avoir de la pénibilité. Quand on les a sortis, ils n'en ont plus aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'on fait de ces personnes-là? Il faut bien quand même qu'on leur fasse de la réparation.
Quand est-ce que vous êtes donné un nouveau rendez-vous?
Il n'y a pas de nouveau rendez-vous qui a été fixé. Aujourd'hui, l'un des gros messages qu'on a passé sur le principe de la pénibilité, c'est que, OK, il y a des avancées côté prévention, côté reconversion, mais côté réparation, on est très très loin du compte côté réparation. Et en particulier, on reste sur on gagne 2 ans avec la pénibilité, mais on gagne 2 ans par rapport à l'âge d'équilibre, ce qui veut dire quand même qu'on va travailler plus longtemps. Et donc ça, pour nous, c'est pas acceptable.
Justement, encore 2 questions, et puis après, on partira à Toulouse, où nous attend Guillaume Faury, le président d'Airbus. 2 questions sur la question d'âge d'équilibre. Il a été réintégré dans l'article 10 de la réforme des retraites, etc. Est-ce que Laurent Berger est monté sur ses grands chevaux en disant qu'il n'est pas question d'avoir un âge d'équilibre, et vous peut-être aussi?
Alors, on n'a pas du tout parlé d'âge d'équilibre ce matin. C'était pas du tout sur la table de la réforme. Ouais. Ça sera pour après, là, dans les groupes de travaux. Nous, mon discours avait été clair et a toujours été le même. L'âge d'équilibre, on peut en parler. Mais, ceci dit, on est toujours opposé à ce qu'il y ait une décote pérenne.
Voilà, on voit que c'est pas fini. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Cyril Chabanier, donc le président de la CFTC. Et dans un instant, on part à Toulouse, où nous attend Guillaume Faury, le patron d'Airbus. Bon résultat, du moins en termes de chiffre d'affaires, en termes de résultats. C'est plutôt une perte nette. Il va nous expliquer tout ça dans un instant.
BFM Business, midi, l'heure H. L'invité avec Edwige Chevrillon.
Et tout de suite, on prend la direction de Toulouse, où nous attend Guillaume Faury, le président d'Airbus. Airbus qui a affiché un chiffre d'affaires en hausse de 11% à plus de 70 milliards, mais avec une perte nette de 1,36 milliards. Il va nous expliquer pourquoi. Guillaume Faury, bonjour. Merci d'être avec nous, d'avoir pris le temps pour BFM Business. Cette année, puisque vous avez pris les rênes d'Airbus en avril 2019, cette année est une année comment pour Airbus ?
Bonjour Edwige, alors l'année 2019 a été une année très chargée, on a fait beaucoup de choses en 2019, en particulier on a effectivement augmenté le chiffre d'affaires de l'entreprise parce qu'on est en croissance et on a livré un nombre record d'avions en 2019 avec 863 avions livrés pour la division des avions commerciaux. On a également amélioré nos paramètres de rentabilité financière sur le business sous-jacent. En revanche, on a reconnu un certain nombre de sujets dans l'année 2019, en particulier les enquêtes pour corruption qui sont arrivées à un terme récemment. Vous savez qu'on a communiqué sur ce sujet à la fin du mois de janvier, et c'est quelque chose qui impacte l'année 2019 en termes de résultats nets, ainsi qu'une provision qu'on a passée sur la 400M pour les contrats export dans le futur. Et donc au total, ça donne une situation un peu contrastée sur le résultat, mais qui reflète quand même le fait qu'on a mis beaucoup de sujets derrière nous et qu'on est paré pour le futur et qu'on continue à progresser, et que la performance opérationnelle de l'entreprise a été très forte en 2019 et devrait continuer à progresser en 2020. Et
justement, c'est une année quand même un peu particulière, hein, pour vous évidemment, Guillaume Faury, mais vous l'avez dit, il y a eu cette amende de 3,6 milliards pour effacer, je dirais, toutes les affaires de corruption et du coup un grand coup de balai à la tête d'Airbus, un peu comme du jamais vu à la tête d'une entreprise aussi importante. Et puis il y a votre éternel concurrent Boeing qui traverse un trou d'air impressionnant, qui a fait zéro commande le mois dernier. C'est du jamais vu depuis de nombreuses années. Donc c'est un climat particulier malgré tout pour Airbus.
C'est une situation effectivement assez inhabituelle par la situation du marché, par la situation de notre concurrent, et puis par le fait qu'après des années d'enquête, on a pu mettre un terme à ces enquêtes, et puis regarder devant en ayant remis l'entreprise là où elle doit être en termes de conformité, en termes d'intégrité. C'est des sujets qui sont très très importants pour nous, et puis pour la société dans laquelle on vit, et pour le futur. Mmh. Voilà, donc, mais on commence 2020 avec tout ça derrière nous. Notre concurrent a encore effectivement ses problèmes de son côté à traiter. C'est aussi des risques pour nous parce que les problèmes du 737 ont potentiellement des impacts sur nos fournisseurs communs, leurs fournisseurs, mais nos fournisseurs communs. Et donc, on va continuer en 2020 à avoir une situation très dynamique, mais globalement, du côté d'Airbus, on est en croissance. On a quatre plateformes qui ont beaucoup de succès sur le marché, et c'est ça qui est important pour nous.
Juste un point, est-ce que justement ce trou d'air de Boeing, combien de temps vous pensez qu'il va durer, et est-ce que du coup ça va faciliter l'émergence de votre concurrent chinois qui en est un tout petit peu à ses balbutiements?
Alors, je ne vais pas spéculer sur la situation de Boeing, et puis je n'ai pas assez d'informations pour le faire de toute façon, mais c'est effectivement une situation qui est quand même assez longue à résoudre. On peut imaginer que dans l'année 2020, les choses commencent à se clarifier, et potentiellement qu'on voit dans la deuxième partie de l'année un retour en service de leur appareil. Et de toute façon, les Chinois, de leur côté, ont une feuille de route stratégique qui est claire. Ils veulent venir sur le marché de l'aviation commerciale. Ils y mettent beaucoup de moyens. Ils ne sont pas encore là. Mais sur le long terme, il est assez probable qu'on voit ce troisième joueur, ce troisième concurrent arriver. En attendant, nous, on fait ce qu'on a à faire. On reste concentré sur nos priorités. On reste concentré sur nos clients. Et je crois que c'est ça important et qui nous permettra de continuer à regarder l'avenir avec envie et avec sérénité.
Justement, Guillaume Faury, est-ce que, donc vous avez dit qu'il y avait 863 avions livrés en 2019, 880 en 2020. Vous venez d'annoncer encore une commande importante, la plus grosse commande jamais réalisée en Afrique. Est-ce que vous refusez des clients?
Alors, on est dans une situation, effectivement, où on a vendu la production de la famille A320 jusqu'à 2025. Et il est judicieux de noter que dans la période où notre concurrent a ses difficultés, un certain nombre de leurs clients viennent vers nous. Oui. On ne peut effectivement pas répondre à la demande à court terme. En revanche, sur le long terme, on est ravis de prendre des clients. C'est une industrie de long terme et la gamme de produits qu'on a permet de répondre à beaucoup des demandes du marché, à presque toutes les demandes du marché. Donc c'est la raison pour laquelle, bien qu'on ait un carnet de commandes de 7500 avions, on a continué l'année dernière à prendre beaucoup de commandes, et on a pris sur le mois de janvier beaucoup de commandes, et vous voyez, c'est pas fini effectivement avec la commande de la 220 qui a été annoncée aujourd'hui.
Ça veut dire qu'en 2020, vous attendez un carnet de commandes de combien?
Alors c'est très difficile, vu la situation du marché, la situation de notre concurrent, de faire des prévisions. Ce qu'on aime, c'est maintenir notre carnet de commandes.
Oui, donc, ça c'est la phrase classique. Oui.
Ce qu'on aime, c'est avoir... Oui, mais c'est effectivement ce qui s'est passé en 2019. C'est un objectif qui est en ordre de grandeur, est à peu près satisfaisant. Et il y a plus d'importance sur les produits pour lesquels le carnet de commandes est moins rempli. Et les produits pour lesquels le carnet de commandes est très rempli, c'est pas très grave, c'est plutôt la qualité des contrats qu'on signe. Donc dans cette situation, c'est surtout les livraisons qui sont importantes et les prises de commandes préparent le long terme. Et donc on dit qu'un book to bill, c'est-à-dire commander à peu près autant d'avions qu'on en livre dans une année, est un bon ordre de grandeur. Mais vu le carnet de commandes, une fois encore, c'est un ordre de grandeur.
On sait que votre plan de route, hein, depuis que vous avez pris les rênes, je le rappelle, c'était en avril 2019, c'était vraiment de travailler sur les cadences de production, parce qu'il y a des problèmes de livraison et des problèmes d'approvisionnement aussi de vos avions. Avec certains, on s'en souvient, qui étaient restés cloués au sol. Maintenant, c'est derrière vous. Enfin, ou presque. Est-ce que la cadence de production, il faut encore l'améliorer, selon vous?
Alors, on améliore les cadences de production, mais ce qui est très important pour moi, c'est d'arriver à améliorer la régularité des livraisons et le caractère prévisible de ce qu'on dit à nos clients. Effectivement, on est dans une industrie où les montées en cadence ont été très très fortes. avec une chaîne de fournisseurs qui est très profonde sur des objets très technologiques. Et donc, cette chaîne de fournisseurs a beaucoup souffert dans la montée en cadence et on a eu un certain nombre de difficultés. Ce qu'on veut pour 2020 et les années suivantes, c'est avoir beaucoup plus de régularité, de fiabilité dans ce qu'on dit et aussi de performance industrielle et financière. Donc, on a pris un objectif de 880 avions pour cette année. Ça correspond à ce que nos clients attendent de nous et je veux qu'on arrive à le faire de façon beaucoup plus régulière, beaucoup plus industrielle que ce qu'on a fait dans cette période de très forte montée en cadence. C'est ça les priorités pour l'année 2020.
Oui, c'est ça que vous voulez mettre point. Juste, avec l'histoire de Boeing, c'est quelque part, alors est-ce que c'est les conséquences de la guerre entre Boeing et Airbus ? C'est la première fois que la sécurité d'un avion a été un peu sacrifiée sur l'autel de la concurrence, notamment parce qu'on sait que Boeing voulait avoir son avion pour concurrencer l'Airbus 320neo. Est-ce que pour vous, ça a vraiment été un clignotant rouge, Guillaume Faury ?
Alors, c'est important de noter que du côté d'Airbus, avec la 320, la famille Neo, on pense vraiment qu'on a fait ce qu'il fallait faire, que ça correspond aux attentes du marché. On était en avance par rapport à notre concurrence en termes de prise de décision et en termes d'arrivée sur le marché. Et ça montre que c'était les bonnes choses à faire. Mais oui, évidemment, la sécurité étant le paramètre numéro un pour cette industrie, tous les événements dans l'industrie, toutes les sont une forme d'opportunité pour se remettre en cause, pour progresser, les autorités, les constructeurs, tout le monde. Et ça, effectivement, nous, Airbus, on le fait en permanence et on le fait plus particulièrement dans cette période où la sécurité est sur le devant de la scène.
Bruno Le Maire, qui était notre invité, l'invité de BFM TV, a dit que l'impact du coronavirus sur l'économie française serait de 0,1%. J'imagine que pour Airbus, ça aura forcément un gros impact au niveau, évidemment, du trafic de passagers, mais aussi de l'approvisionnement de vos usines en Chine.
Alors, effectivement, c'est les deux sujets qui sont importants pour nous, celui de nos clients. Et pour l'instant, ça impacte principalement les compagnies aériennes chinoises et les liaisons entre la Chine et le reste du monde, donc un certain nombre de compagnies internationales. C'est probablement une situation transitoire, mais il faut la regarder. Donc, on accompagne nos clients dans cette période de l'année, la période de difficultés qui correspond. Et puis, il y a un autre sujet qui est celui de la chaîne de fournisseurs. Nous, on est un acteur très important en Chine. On a des chaînes d'assemblage, on a des chaînes de production. Elles ont redémarré en début de semaine, après deux semaines d'arrêt. Une des deux semaines était liée au Nouvel An chinois, mais la deuxième semaine était sur demande du gouvernement chinois
à Tianjin,
pour traiter
oui.
le sujet du coronavirus dans le pays. Et donc ça, c'est reparti en termes de production. On a perdu une semaine, mais je pense qu'on devrait pouvoir la rattraper. Et ce qui est très important, c'est nos fournisseurs, la chaîne d'approvisionnement et de s'assurer qu'on n'a pas de gros soucis dans ce domaine-là. Donc c'est un gros travail de toutes les équipes. On est assez habitués à avoir des sujets de cette nature à traiter un peu partout à travers le monde pour des raisons différentes. Là, c'est en Chine ou à partir de Chine. Et on est très, très concentrés sur ce sujet pour anticiper, trouver des solutions pour prévenir des ruptures d'approvisionnement. Pour l'instant, je n'ai pas d'alerte particulière à ce stade, mais c'est effectivement très, très dynamique. On voit bien tous la façon dont le coronavirus, cette situation se déplace dans le monde et évolue, et donc on est très attentif à regarder ce qui va se passer pour notre industrie et pour Airbus.
Encore deux questions, Guillaume Faury, si vous voulez bien. Au sujet de l'A220, le court courrier, il y a eu quatrième incident quand même, incident de moteur. Quelle alerte vous en tirez ?
Alors, on est en relation avec les compagnies aériennes, avec les autorités de certification. Oui. L'incident dont on parle, c'est des vibrations qui entraînent le déroutement de l'avion. C'est des choses qui font partie des procédures et on a deux moteurs à bord des avions pour être capable de gérer cette situation. Mais évidemment, on n'est pas content de ce problème de fiabilité. Il y a un gros travail qui est en cours pour le résoudre et il faut qu'on soit capable de le résoudre rapidement. Et c'est un sujet très très important pour nous. On est dessus. Voilà. Mais à ce stade, il n'y a pas de problème de sécurité en tant que tel, tout autant qu'on le gère rapidement et qu'on le gère bien. Et je peux vous assurer qu'on est concentré dessus.
Un mot, la 400M, l'avion militaire, encore en perte, ce qui justifie la perte sur votre exercice 2019, enfin du moins en partie, pas de remise en cause du programme de l'avion militaire. C'est un peu la question récurrente aussi qu'on pose pour Airbus.
Oui, alors cette situation est un peu en trompe-l'œil malheureusement parce que l'amélioration opérationnelle de la 400M est là, elle s'est confirmée. On a fait une très bonne année 2019 dans ce domaine-là avec le contrat de rebaselining, on l'appelle, qui permettait de remettre en adéquation toutes les dimensions du programme avec nos clients. Et donc le programme A400M, il s'est fortement amélioré dans l'année 2019. Le sujet qu'on traite à travers la provision qu'on a passée, la charge pardon, qu'on a passée l'année dernière, est lié aux exports dans le futur. C'est un peu technique, mais dans la période du programme, c'est-à-dire des contrats qui ont déjà été lancés, il y avait un nombre important de contrats exports qui étaient positionnés et on a réduit ce nombre de contrats exports. Donc en fait, on continue à dérisquer le programme. Ça passe malheureusement par cette décision-là, mais on pense que c'est la bonne chose à faire et ça ne remet pas en cause le produit, l'avion, la performance opérationnelle qui est extraordinaire et aussi la conduite du programme pour les clients actuels. Ça, c'est très important.
Merci Guillaume Faury. J'aurais voulu parler de l'avion du futur, du Maverick, mais je sais que votre temps est compté. Merci d'avoir été avec nous. La prochaine fois, vous viendrez comme ça en studio à Paris. Là, vous étiez en direct de Toulouse, justement sur les résultats, bons résultats quand même, notamment en termes de chiffres commerciaux. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Voilà, l'heure H se poursuit bien sûr. On change complètement de sujet, on va aller au théâtre, on va regarder un peu comment ça se passe sur le front de la scène à Paris avec mon invité qui est Jean-Marc Dumontet, producteur de spectacle. Voilà, c'était Guillaume Faury en direct de Toulouse.
BFM Business, midi, l'heure H. L'invité avec Edwige Chevrillon.
Notre invité, c'est Jean-Marc Dumontet, producteur de spectacles, de Canteloup, de 6 salles de théâtre. Jean-Marc Dumontet, bonjour.
Bonjour.
Bonjour, merci d'être avec nous. Vous accueillez, je le disais, près de 750 000 Français dans vos salles. Beaucoup de questions parce qu'on a vu que ça a été perturbé, notamment à cause des mouvements sociaux, le climat social, un peu comment vous avez vécu ça. Question que je posais au président de l'Opéra de Paris, Jean-Pierre Clamadieu, qui est aussi le président accessoirement d'Engie, mais qui disait quand même qu'il y avait un coût énorme pour l'Opéra de Paris. On va voir ça juste d'abord. Vous êtes très proche d'Emmanuel Macron, on dit même que vous faites partie de ceux qui ont essayé de lui trouver des communicants. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il n'a plus le fit avec les Français, la recette magique? Il l'a perdu, sa baguette?
Il n'a pas du tout perdu le fit ou la recette magique, c'est qu'il n'y en a pas de recette magique. Et c'est qu'aujourd'hui, on attend de l'immédiat, alors qu'une action comme celle qu'il a menée, de profonde transformation, de réforme importante, ça met du temps. Et c'est intéressant parce que quand je vous écoutais tout à l'heure, on voit que le chômage connaît une baisse très significative avec
depuis 11 ans. Il y a des bons chiffres économiques.
Il y a d'excellents chiffres. Oui, mais... Tout ça, ça met du temps. Et les réformes, au bout d'un moment, on va voir que son courage, sa détermination ont été payants. Et cette abominable étiquette qu'il a de président des riches, on va voir qu'Emmanuel Macron est un président très social, le plus social.
Mais
pourquoi?
Les Français
parce
le
que...
voient pas.
Mais ils le voient pas encore, mais ils vont le voir. Pourquoi
vous y croyez, vraiment?
Mais bien sûr, vous savez, quand vous voyez les décrocheurs, ce sont ces jeunes qui sont en attente d'une formation, d'un job, de quelque chose. Ils étaient 1 250 000. Maintenant, ils sont 960 000. C'est des chiffres d'avant-hier, c'était dans Le Monde. Ça veut dire que pour les plus faibles, il y a des actions fortes. Et ces actions fortes, c'est quoi? C'est redonner des marges de manœuvre aux entreprises pour que les entreprises embauchent et investissent.
Alors,
et ça va mettre du temps, ça met du temps, mais ça paye. Et on va se rendre compte quand il y a 300 000 décrocheurs en moins, 300 000. Quand il y a 500 000 créations d'emplois en 2 ans, quand il y a un taux de chômage qui se baisse, qui en profite? Qui en profite?
Les plus démunis
en profitent.
Les réformes, elles produisent leurs fruits. On le voit en termes d'apprentissage, de chômage, des décrocheurs, les entreprises. Ça, on est d'accord. Même sur le niveau, le pouvoir d'achat, il y a quand même un débat. Après, où est-ce que ça va le plus? Ça, c'est encore une question. Mais quelque part, c'est la personne même d'Emmanuel Macron.
Vous savez, il n'y a pas eu un président sous la Ve République qui soit réélu hors période de cohabitation. Ça veut bien dire quelque chose. Ça veut bien dire que le pouvoir use, que le pouvoir, c'est difficile. Tous les présidents sous la Ve, que ça soit dans les derniers présidents, que ça soit Chirac en 95, mais même Mitterrand en 81, Chirac en 95, Sarkozy, Hollande, ils ont tous, au bout d'un moment, calé. Macron, il a décidé de maintenir sa ligne directrice, de maintenir une politique de l'offre pour encourager le monde de l'entreprise. Il a décidé de valoriser le travail. Il y a des baisses très significatives de cotisations sociales qui permettent de gagner du pouvoir d'achat.
Mais pourquoi ça passe pas?
Mais ça prendra. Ça prend du temps.
Vous pensez que ça va prendre? Écoutez, parce que la réforme des retraites, il est complètement encalaminé là-dedans.
La réforme des retraites, ouais. Tout le monde a échoué. personne n'a voulu la mener.
Mais pourquoi fallait-il qu'il la mène maintenant ?
Ben, il faut bien la mener un jour, parce que c'est important et que c'est dans 20 ou 25 ans qu'on sera bien content que cette retraite et cette réforme des retraites ait été menée, et on sera bien content que tous les Français aient un système universel et que le privé et le public fonctionnent sur la même logique et qu'il n'y ait pas ces inégalités.
Même les députés de sa majorité des doutes en disant c'est de l'amateurisme. Idéalement, c'était formidable, peut-être.
Pardon, il faut avoir des nerfs solides quand on est un patron.
Il faut savoir exécuter.
Attendez, quand on est un patron, on doit avoir les nerfs solides et avoir un cap. Et ce président, il a du recul, il a un cap et il a les nerfs solides. C'est-à-dire qu'il n'est pas fragilisé.
Oui, mais puisque vous êtes un chef d'entreprise, si vous dites, il y a un moment où il faut quand même, d'accord, donner les grandes orientations, tout à fait d'accord, c'est le rôle d'un patron. Mais en même temps, il faut que ça soit exécutable. Il faut mettre en place l'exécution. Il y a plein de PDG qui ont sauté parce que justement, ils ne délivraient pas. Mais, c'est un peu tout l'enjeu là, d'Emmanuel Macron.
Il y a une grande question du financement. Une grande question de finance.
Mais même de compréhension.
Depuis le mois de... C'est très compréhensible. C'est que jusqu'à présent, vous avez des régimes spéciaux qui sont des vraies inégalités.
Oui.
Vous avez une vraie inégalité entre le public et le privé. On décide que pour 1 euro de cotisation, il y aura pour tout le monde, la même retraite.
C'est un beau principe.
Bon, c'est un beau principe. Il faut le mettre en place. C'est un principe qui doit réunir tout le monde. C'est un principe extrêmement social, égalitaire, avec des vraies avancées pour les plus démunis. Bon, ça, c'est la base. Ensuite, il y a des questions de financement. Il y a eu la question de l'âge pivot.
Il y a toutes les questions.
Laurent Berger.
Il y a même là la question de la valorisation du point.
Bien sûr.
On se rend compte dans le texte, finalement, qu'il n'est pas ce qui avait été annoncé.
Mais juste une chose. Juste une chose.
Les choses sont en cours
d'élaboration. Les partenaires sociaux ont la main pendant 3 mois. Ne soyons pas totalement contradictoires en d'un côté disant il est jupitérien, il n'écoute personne, et quand il y a des périodes de concertation, qu'on dise on n'y voit pas clair.
Demander aux syndicats de concertation, ils ont un peu de mal, mais bon.
Ça prend du temps.
Ouais.
Il faut avoir les nerfs solides. On a la chance d'avoir un président qui ne cale pas. Voilà.
Et est-ce qu'en termes de communication, on a compris votre message en argumentaire. En termes de communication, est-ce que justement vous pouvez pas lui donner des conseils ou les gens qui est les acteurs autour de vous pour qu'il arrive à faire passer ces messages.
Mais vous savez le message de l'exigence, le message de la transformation est un message beaucoup plus compliqué à faire passer que le combat. La polémique qui peut naître tous les jours sur n'importe quel sujet. Donc, ce n'est pas une question de communication. Il y a des réformes de fond qui bousculent nos mentalités, qui bousculent nos façons de voir les choses, qui inquiètent, et c'est tout à fait normal. Ça inquiète, et c'est normal. C'est la retraite des gens, ce n'est pas rien.
Ah bah, oui,
donc, c'est... Vous vous rappelez 95 Eh ben, ils ont calé, ils ont arrêté. S'ils avaient eu le courage qu'a Macron aujourd'hui, de continuer le chemin, quelles que soient les difficultés, aujourd'hui, on n'en serait pas là et le pays n'en serait pas là. Tous les grands... On parle beaucoup de l'Allemagne, souvent, sur le taux de chômage de l'Allemagne, mais ils ont fait des grandes réformes courageuses en 2005-2006.
Pour la France, que vous avez raison. Voilà, lorsqu'on voit la situation...
Il faut du courage, il faut du recul, et il ne faut pas non plus être, totalement pollué par... Quelques activistes.
On n'est pas pollué. Regardez les Français, regardez tous les. Enfin, on n'est pas pollué du tout. On voit bien qu'il y a quelques activistes avec des mouvements de violence. On va en parler parce que justement, des théâtres ont été victimes. Enfin, avec Emmanuel Macron. Et ça, on peut tout à fait dénoncer ça. Juste un petit point parce que, comme on dit que vous êtes occupé et vous allez vous occuper de la communication un peu.
Non, je ne vais pas m'occuper de la communication.
De trouver les personnes autour de.
J'ai travaillé sur ça.
Pour faire la communication. Oui, mais là, il y a Philippe Grandjean, je crois, qui s'en va, qui est une personnalité importante.
Pardon, Philippe Grandjean ne s'en va pas.
Ah bon, je sais pas, c'était...
Non. Ouais. Philippe Grandjean est venu il y a un an pour une mission d'un an, qu'il a décidé de poursuivre jusqu'au mois de juillet. Les choses sont dans un timing tout à fait normal.
Philippe Grandjean, on va le remplacer, non ? Donc, le communicant...
Pardon, moi je ne suis... pardon, moi je ne veux pas du tout surjouer ma proximité avec le président et de m'arroger un rôle qui n'est pas le mien. Il s'avère que j'ai pu le côtoyer, il s'avère que j'ai pu le voir, il s'avère que l'année dernière j'ai pu travailler. Je ne suis pas pour autant son conseiller ou quoi qu'est-ce. Ouais. Non pas que je m'en écarte, vous avez vu mon engagement à ses côtés, mais je ne veux pas m'arroger un rôle qui n'est pas le mien.
Oui, d'accord. Le théâtre, vous avez beaucoup souffert avec le mouvement.
Pas tant que ça.
Alors on va quand même dire pour ceux qui vous connaissent pas, Jean-Marc Dumontet, que vous avez des théâtres qui sont connus à Paris. Alors il y a un peu de tout dans vos théâtres. Allez-y, moi je les connais.
C'est des théâtres. Il y a pas un peu de tout parce qu'il faudrait dire qu'il y a des hiérarchies. Il y a plein de spectacles.
Non, mais je veux dire, il y a le Point Virgule, voilà. Il y a le théâtre Antoine. Vous voyez, c'est pas du tout quand on aime le théâtre comme moi, c'est pas tout à fait le même genre.
J'ai eu la chance de défendre cette année de très très beaux spectacles. Ouais. Le spectacle Art de Yasmina Reza, ouais, avec Charles Berling, Alain Fromager et Daroussin, qui a magnifiquement bien marché. Nous avons poursuivi avec Édouard Baird, qui connaît, qui a un talent, une présence assez hallucinante, un charme, un charisme, qui est capable de vous embarquer dès la première seconde. Nous avons en ce moment aussi au Théâtre Antoine Fleur de Soleil, magnifique histoire de Wiesenthal autour du thème du pardon. Peut-on tout pardonner, qui est extrêmement bien incarné par Thierry Lhermitte. Ensuite, nous poursuivons avec et je vous donne la liste parce que ça prouve que c'est la programmation qui est très déterminante.
Oui, et ça montre bien justement la diversité de ce que vous faites.
Ensuite, on a Berléand et Demaison sur une pièce qui s'appelle Par le bout du nez. Ça, c'est pour le Théâtre Antoine. À côté, le Théâtre Libre, on a eu la chance d'avoir Plaidoirie avec Richard Berry, plus un magnifique cirque qui est le Cirque Leroux et Opéra Locos qui ont connu un grand succès. Et là, on a la chance exceptionnelle d'accueillir la Comédie Française au mois de mars pour les Fourberies de Scapin, la Comédie Française qui vient dans le cadre de sa tournée hors les murs dans notre théâtre. Et à Bobino, pour faire très très vite, on a les Franglaises qui ont fait plus de 500 représentations chez nous et qui sont un spectacle très moteur. Tout ça pour dire que dans notre métier, c'est la qualité des spectacles qu'on propose qui est très déterminante. Donc notre travail, notre obsession, c'est d'avoir la meilleure programmation possible avec des spectacles forts, originaux et pour lesquels le spectateur a une urgence. Et quand vous avez une urgence, et comme ça je fais le lien avec les difficultés sociales que tout le pays a traversées, quand vous avez une urgence, eh bien les gens viennent dans vos salles. Et toute la difficulté, elle a été vraiment pour les spectacles qui étaient en cours de démarrage, les spectacles étaient encore un peu fragiles et qui avaient besoin de confirmer, eux, c'était compliqué.
Mais comme c'était dans le privé et non pas dans le théâtre public, vous n'avez pas eu de mouvement de grève chez vous.
On a eu la chance de ne pas avoir de mouvement de grève.
Oui, ça, c'est ce qui fait la grande différence aussi.
Nous sommes des petites équipes, très mobilisés, parce que nous, ce sont le nombre de billets qu'on vend qui va déterminer la réalité économique de notre vie. On n'est pas
la dernière ligne.
Voilà, donc elle est très importante et tous nos collaborateurs le savent. Donc tous nos collaborateurs participent et ils savent que s'ils ont engrangé un moment de grève pour une réforme qui ne concerne pas notre théâtre, puisqu'on n'est pas décisionnaire, ce serait très néfaste pour nos théâtres. Donc on a la chance d'avoir des collaborateurs qui ont envie de participer vraiment à tous les niveaux à la bonne marche de nos théâtres. Donc ils jouent vraiment le jeu. Alors que le théâtre public, incontestablement, comme c'est un peu décorrélé des entrées...
Ils sont inquiets pour leur régime de retraite.
Qu'ils ont des retraites souvent avec un régime très spécifique. Oui. Évidemment, vous avez du mal à tout à coup faire les sacrifices qu'on leur demande.
Est-ce que vous pensez, tiens, justement, parce que vous connaissez bien ces acteurs, vous êtes, je le disais, producteur de grandes vedettes, comme Canteloup, Alex Lutz, ou encore...
Farry,
très connu. Des jeunes, mais on ne peut pas forcément faire ce métier jusqu'à 64 ans. Il faut pas un régime quand même un peu spécial pour des artistes?
Alors pardon, il y a beaucoup d'artistes qui dépassent la soixantaine
et qui
continuent à être très actifs. Donc il y a pas plus, si vous voulez, de logique à demander ça que d'autres corps de métier à demander ça, parce qu'il y a pas, il y a une pénibilité dans notre métier, mais c'est une pénibilité relative par rapport aux gens qui travaillent dans la rue, soit dans les travaux publics, soit à la propreté, c'est pas la même pénibilité. Donc cette demande n'existe pas forcément dans nos théâtres privés.
Ouais, d'accord, ok. Donc vous ressentez pas ça. Alors c'était pas pas chez vous, mais Emmanuel Macron est allé au théâtre au Bouffes du Nord et donc il y a eu cet incident dont on a vu les images et peut-être qu'on peut les revoir en ce moment même pour ceux qui nous regardent à la télévision. Ça veut dire quoi? D'abord, est-ce que vous avez trouvé ça choquant? C'est vrai que ça peut être choquant de voir
c'est
le président...
Non mais je veux dire, c'est choquant. Alors d'abord, c'est intéressant parce qu'on se rend compte que c'est un épiphénomène qui médiatiquement tout à coup devient un tsunami et c'est disproportionné. Donc ça, c'est intéressant à voir, j'allais dire presque d'un point de vue sociologique, sociétal, sur le fonctionnement de nos sociétés d'information.
Ah oui, ça c'est le rôle des réseaux sociaux.
C'est pas que les réseaux sociaux, c'est les télés en continu aussi, c'est les télés en continu.
Oui, enfin, c'est nous, notre époque. Mais en même temps, on voit bien quand même que les réseaux sociaux qui ont fait, qui ont...
Non, c'est pas les... Oui, les réseaux sociaux sont déclencheurs, mais au fond, c'est pas une salle qui va conspuer le président, c'est absolument pas le cas.
Non, pas du
tout. C'est juste quelques personnes qui, à l'extérieur de la salle, ils sont au démarrage 20 ou 30, décident de faire un peu de bruit. Certains essayent, et ça, je trouve ça choquant, de s'introduire dans le théâtre pour bouleverser, bousculer la représentation. Et ça, je trouve ça choquant, pas respectueux. Je trouve que ce sont des méthodes d'intimidation. Donc ça, je le condamne totalement. Ensuite, que des gens se réunissent et sur un trottoir disent qu'ils sont pas d'accord, moi, ça ne me choque pas. Mmh. Ce qui est intéressant, c'est la disproportion qu'il y a entre les commentaires, entre ce que dit...
La... Oui, mais il y a eu la retourne aussi qui a été brûlée, qui était un peu comme Fouquet's pour Nicolas Sarkozy.
Écoutez,
il y avait la retourne pour Emmanuel Macron. C'est pas complètement neutre.
Écoutez, ça veut dire une chose.
Il faut dénoncer ce genre de méthode.
C'est pas que ça. C'est la CFDT à deux reprises. C'est la CFDT à deux reprises qui est envahie.
Oui, d'accord.
Ça veut dire qu'il y a des archi-minorités qui sont prêtes à des coups d'éclat. Mais c'est pas l'état du pays. C'est pas la réalité du pays. Là aussi, il faut savoir faire preuve de recul. Et ce qui est le plus choquant, c'est la rotonde. Parce qu'on a mis au chômage des gens qui n'ont pas pu travailler.
Mais parce que les mouvements de grève n'aboutissent à rien. Donc maintenant, il y a des actions, il y a une violence rentrée.
Mais parce que les mouvements de grève aujourd'hui ne s'inscrivent pas dans la bonne procédure. On doit rentrer sur des négociations. On est rentré dans des négociations, c'est ça la clé. Et notre pays, s'il cède à quelques activistes, n'avancera pas. C'est la négociation, c'est le pas de chaque côté, les patrons, les syndicats, et c'est chacun en étant plus responsable qu'on construira un meilleur pays.
Ouais. Jean-Marc Dumontet, est-ce que pour vous, dans le choix des pièces, puisque vous intervenez beaucoup sur le choix des spectacles, ce climat a peu, pas révolutionnaire, c'est évidemment beaucoup trop important, mais puisqu'on est dans le théâtre, est-ce que ça impacte votre choix sur les pièces?
Ça impacte évidemment mon choix.
Ouais.
Je vais vous donner deux exemples.
Ouais.
On a la chance de défendre avec Richard Berry un magnifique spectacle qui s'appelle Plaidoirie, autour des grandes plaidoiries du XXe siècle. Et ces plaidoiries, il y a notamment la plaidoirie de Bobigny, Gisèle Halimi sur l'avortement, il y a une plaidoirie sur la peine de mort, il y a la plaidoirie sur l'affaire de Ziad Ebouna de 2005. Et tout ça, c'est au-delà du droit, au-delà de la loi, au-delà des résultats de ces procès, ça montre l'évolution de notre société. Et ça montre quoi ? Eh bien, ça montre qu'il y a 40 ans, sur les marches d'un palais de justice, on criait « à mort, à mort ».
Voilà. Ouais, on a mis Emmanuel Macron sur une pique.
Non, mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, parce que c'est quelques activistes. Avant, il y a 40 ans, il y avait 300, 400 personnes qui hurlaient à mort. Et dans l'opinion publique française, c'était largement répandu. Au moment du procès de Bobigny, il y a 50 ans, l'avortement n'est pas la norme. Ça veut dire que notre société, elle évolue bien. Et moi, un des messages...
Au
travers de plaidoiries, c'est que vous voyez, quand on a le nez sur l'actualité, quand on a le nez sur une pique avec effectivement l'effigie de Macron, et c'est honteux, c'est scandaleux, on ne voit pas que notre société, elle évolue bien, que notre société, elle se civilise, que notre société, elle se pacifie. Et donc, un des messages que je fais passer au travers du spectacle Plaidoirie, incarné par Richard Berry, c'est que notre société, elle va mieux, même s'il y a des soubresauts. Vous savez, la démocratie, ça se construit jour après jour. Et juste pour finir, l'autre spectacle que j'ai choisi, qui m'intéresse vraiment, c'est Fleur de Soleil avec Thierry Lhermitte. Fleur de Soleil, c'est sur la question du pardon. C'est est-ce qu'on peut tout pardonner ? Et la fin du spectacle, Thierry dit « L'homme est une question de persévérance », c'est-à-dire ça se construit vraiment. Et dernier exemple, à la fin de son spectacle, Alex Lutz, qui a fait les Folies Bergères, on a fait 35 dates aux Folies Bergères, il dit au public « Pardonnez-vous ». Voilà. Et donc moi, dans mes choix, effectivement, il y a la volonté de plus de bienveillance et de se dire qu'on a la chance immense d'être dans ce pays.
Jean-Marc Dumontet, est-ce que, juste en vous écoutant et énumérer vos têtes d'affiche, est-ce qu'il y a toujours un côté un peu vu à la télé, non ? Est-ce que ça,
pas du
que
tout.
Ça marche, non ?
Pas du tout. Enfin, genre,
vu au cinéma, c'est pas des, c'est des gens qui ont fait de Thierry Lhermitte, qui étaient plus connus pour ses rôles au cinéma que ses rôles d'acteur, par exemple.
Certes, mais voilà. je ne choisis pas, si vous
Richard
voulez.
Richard Berry aussi, vous voyez.
Oui, mais je choisis.
Il y a des grands acteurs qui n'ont été que acteurs de théâtre.
C'est très intéressant ce que vous dites. Alors oui, d'abord, Richard Berry a fait quand même...
Mais au-delà de...
Non, mais Richard Berry a fait quand même la Comédie française et a 40 pièces à son actif. Et sur un spectacle comme Plaidoirie, qui est un spectacle extrêmement fort, je cherchais un acteur qui incarne. Et Richard avait réalisé, parce qu'il a réalisé beaucoup au cinéma.
Non, mais vous voyez bien ce que je veux dire. C'est qu'il y a plein... Même au-delà de vous.
Non. C'est important ce que je veux vous dire. Richard Berry était un choix évident parce qu'il incarne, il porte, il a l'engagement pour porter un spectacle comme Plaidoirie.
Il nous reste encore beaucoup de questions. C'est pour ça que je vous presse un petit peu. D'abord, en province, à quand les reprises de beaucoup de théâtre en province ?
Alors,
vous émettez des petits pas.
Non, mais j'ai la chance d'avoir gagné une délégation de service public à Saint-Malo.
Oui, je sais, et à Saint-Malo.
Qui marche extrêmement bien, puisqu'on a doublé la fréquentation et doublé les abonnements.
Donc ça marche, donc ailleurs.
C'est du temps, et mon énergie, elle est consacrée vraiment à créer des spectacles à Paris et partir sur des aventures. Je suis extrêmement heureux d'être à Saint-Malo. Parce que on a beaucoup de retours très positifs du public, mais mon métier, c'est de créer des spectacles à Paris.
Oui, c'est ça. Mais en même temps, on voit bien que le spectacle, c'est tellement important.
On peut pas tout faire.
Alors justement, vous faites beaucoup de choses, et il nous reste encore deux grandes questions. Les Molières, vous êtes producteur des Molières.
Je suis pas le producteur, je suis le président des Molières.
Président des Molières.
C'est pas la même chose.
Oui. Voilà,
c'est pas la même chose.
Président des Molières. Moi, c'est encore pire par rapport à ma question. Vous allez comprendre comme ça. Non, mais il y a là, vous avez vu les Oscars à Hollywood, donc une baisse très très forte à la télévision d'intérêt pour ce genre de cérémonie. Il y a évidemment toute la polémique autour des Césars. On ne sait pas comment ça va se passer là. Est-ce que ça veut dire qu'il y a, encore une appétence pour ce genre de manifestation, de grandes cérémonies ?
Bien sûr qu'il y a une appétence. Vous savez, tout bouge. Les télévisions voient leur modèle totalement bousculé aujourd'hui, enfin depuis quelques années. Donc tout bouge, mais oui, il y a véritablement un appétit toujours.
Les Molières à la télévision.
Oui, et puis cette année, nous avons la chance qu'enfin France Télévisions a accédé à notre rêve qui était de passer en prime time, ce qui est la moindre des choses.
Et le MeToo, ça se traduit comment pour les Molières ?
Le MeToo, l'année dernière, on a déjà commencé justement sur le palmarès et sur les votes à obliger qu'il y ait systématiquement des femmes dans les metteurs en scène, mais au deuxième tour.
Vous avez parlé que d'hommes, je vous signale.
J'ai parlé que d'hommes parce que j'aurais pu vous parler tout à fait du spectacle de Caroline Vigneault que je défends en ce moment, ou des Coquettes. Et vous m'avez parlé de Richard Berry, Thierry Lhermitte.
Non, c'est vous qui en avez parlé.
Je vous ai parlé de ce qu'on avait en ce moment.
Voilà ce qu'on avait en ce moment. Non, mais c'est
important. Mais j'ai Caroline Vigneault qui est sur toutes les routes de France, et les Coquettes qui sont en création de spectacle, et Lola Dubini qui est au Sentier des Halles.
Voilà, comme
donc
ça,
il n'y a aucun problème.
Réponse à tout. Merci beaucoup, Jean-Marc Dumontet. Puis aller au théâtre, c'est très important pour vous et puis pour le théâtre français. Merci beaucoup.